Pour que chacun puisse se remettre en mémoire ce dont nous avons parlé il y a 15 jours, je vous propose de reprendre la lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 11, les versets 11 à 14, puis 19 à 26. Je lis dans la version second 21. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit ». Et ses disciples l'entendirent. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Mon propos, comme il y a 15 jours, est d'essayer de comprendre et de cerner la portée de ces versets dans notre vie chrétienne, notre vie de tous les jours. Pourquoi certaines prières sont exaucées et d'autres non ? Il y a 15 jours, nous avons vu les principales conditions d'exaucement des prières. Les voici. L'exaucement des prières dépend de notre foi, sans douter. Il exige que nous pardonnions ce que nous avons contre quelqu'un. Il a pour but avant tout de manifester la gloire de Dieu. L'exaucement des prières est aussi destiné à manifester l'amour du Père en nous. Jean-Guy nous a rappeler l'amour ce matin. Et enfin, il n'est possible que si notre demande est conforme à la volonté de Dieu, bien entendu. Je vous invite à examiner aujourd'hui quelques pièges qui peuvent bloquer l'exaucement des prières, tout en cherchant à mettre en évidence quelle mise en pratique dans notre vie quotidienne. Bien évidemment, nous trouvons tout d'abord les contraires de ce que nous avons vu la dernière fois. Le refus de pardonner et toute demande contraire à la volonté exprimée de Dieu, ou dont l'exaucement ne pourrait pas servir sa gloire ou manifester son amour. L'apôtre Jacques ajoute à cette liste deux obstacles importants à l'exaucement de nos prières. Nous les trouvons au chapitre 4 de sa lettre, la lettre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jacques nous dit « D'où viennent les disputes ? D'où viennent les luttes entre vous ? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps ? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Ou encore, vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Infidèle que vous êtes, dit l'apôtre Jacques, infidèle que nous sommes. Vous ne savez donc pas ceci, aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Combien de fois cherchons-nous une solution à nos problèmes sans en parler au Seigneur ? Comme le petit enfant qui dit « moi, veux faire tout seul ». C'est peut-être par orgueil ou par simple négligence. Mais est-ce que la négligence peut être simple ? Par définition, nous ne mesurons jamais les conséquences de nos négligences, puisque nous les négligeons. Allez donc demander aux survivants de Beyrouth s'ils sont satisfaits des négligences de certains responsables depuis plus de 7 ans. Alors ça ressemble à une vérité de M. de la Palice, mais si nous souhaitons que Dieu intervienne dans notre situation, il faut en tout premier lieu le lui demander. Ce n'est pas qu'il ignore notre situation, bien entendu, mais il nous veut libres. Et c'est de notre part une toute première marque de confiance que de lui faire notre demande. Pas de demande, pas d'exaucement. Notre premier réflexe en cas de difficulté, de questions importantes ou même de simples interrogations doit être de nous tourner vers notre Dieu par l'intermédiaire du Seigneur Jésus dans la prière et aussi de rechercher ses réponses dans la parole. C'est là encore ce que Jean-Guy nous a rappelé tout à l'heure. Prenons un exemple. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église ? Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Bien souvent, si nous avons une douleur persistante quelque part, nous cherchons tous les remèdes possibles et imaginables pour nous soulager, avant de songer à la prière. Elle nous apparaît souvent comme un dernier recours. Alors, elle nous apparaît souvent comme un dernier recours, alors qu'elle devrait toujours être placée en premier, en tête. En toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière selon ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Une seconde raison évoquée par l'apôtre Jacques, vous demandez et vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Combien de fois envions-nous un tel ou une telle ? Même secrètement, sans en parler à personne, dans nos cœurs, mais Dieu regarde au cœur. Combien de fois trouvons-nous que Dieu est injuste avec nous ? Je ne sais pas vous, mais combien de fois ça m'est arrivé de le ressentir et de l'entendre aussi de l'un ou de l'autre. Combien de fois trouvons-nous que Dieu est injuste avec nous ou que la situation est injuste ? Pour les autres, tout va bien. Mais pour nous, c'est difficulté sur difficulté. Il y a même un cantique qui dit « Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. » Et l'auteur s'empresse d'ajouter « Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. » C'est vrai. Nous ne savons quelle est la mesure de souffrance que nous aurons à affronter au cours de notre vie terrestre. Mais nous pouvons nous appuyer sur trois éléments de réponse. Il y en a peut-être d'autres, j'en ai rassemblé trois. Tout d'abord, Job. Job répondit à sa femme, « Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ?» Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu, dit la parole. Job, dans toute sa souffrance, est resté convaincu que Dieu est tout-puissant et juste. C'est de cette manière que sa foi s'est exprimée, même quand il a revendiqué de pouvoir plaider sa cause auprès de l'Éternel directement, ce que le Seigneur lui accordera plus tard. Nous supportons mieux la souffrance si nous restons convaincus que Dieu est tout-puissant et juste. Un autre élément de réponse nous est donné par l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens. « Tout ce que nous endurons, dit l'apôtre, c'est pour vous. » De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. Nous voyons la reconnaissance et la gloire de Dieu. « C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, dit l'apôtre Paul. » Alors, ce n'était pas mon cas ce matin, hein. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère, ajoute l'apôtre, en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Elle, il s'agit de la détresse. La détresse d'aujourd'hui nous prépare la gloire abondante et éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Nous supportons mieux la souffrance si nous restons convaincus qu'elle est provisoire et si nous nous efforçons de regarder à ce qui est invisible, à ce qui vient après dans cette vie ou dans l'autre. Nous efforcer signifie utiliser nos forces pour. En l'occurrence, utiliser nos forces pour regarder à ce qui est invisible et éviter de les utiliser pour nous plaindre. Ça aussi, ça nous arrive, de nous épuiser en plainte, de nous épuiser en récrimination. À travers la parole, nous le voyons, tout le peuple hébreu, je relisais ce matin un commentaire qui dit que à la sortie d'Égypte, pour rejoindre la terre promise, il y avait 11 jours de marche. Ils ont marché pendant 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cessé de se plaindre et de récriminer. Ils sont sortis à 1,5 million. Il y a 1,5 million, on estime, ils disent en gros 600 000, mais sans compter les femmes et les enfants, donc ils estimaient qu'1,5 million de personnes sont sorties d'Égypte au moment de la sortie d'Égypte. Vous imaginez, 1,5 million de personnes. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés en terre promise. Tous les autres ont erré dans le désert pendant 40 ans et ce sont leurs enfants qui sont rentrés en terre promise, mais pas eux. Utiliser nos forces pour regarder à ce qui est invisible et éviter de les utiliser pour nous plaindre. C'est un travail de chaque instant. Je ne crois pas qu'un seul d'entre nous ne se soit jamais plaint. Enfin, peut-être qu'il lève la main. C'est un travail de chaque instant, d'autant plus difficile quand nous sommes dans la souffrance, bien entendu. Mais combien utile ce travail et combien libérateur. L'apôtre Paul était parvenu à se réjouir vraiment, même dans la souffrance. Enfin, ce qui peut aussi nous aider, c'est que Jésus-Christ, au moment de sa crucifixion, a pris toutes nos souffrances sur lui. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, « Eloi, Eloi, lema sabachthani !» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En ce moment de sacrifice suprême, notre Seigneur s'est senti totalement abandonné du Père, ce qui a sans doute été pour lui la pire des souffrances, tant sa communion avec le Père était permanente et parfaite jusque-là. Cette séparation, cet abandon, c'est le poids de nos péchés. À ce moment-là, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Il a subi le poids de la totalité de tous nos péchés réunis. Quand on regarde son propre péché, j'imagine ce que ça doit être la totalité. Il a été fait péché pour nous, dit la parole. Il a été fait péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que je me sens justice de Dieu chaque jour ? Pourtant, je le suis par la grâce de Dieu, tant que je me place sous la grâce. Et ça nous a été rappelé aussi tout à l'heure dans une prière. Si Jésus a ainsi pris sur lui tous nos péchés, et donc aussi la souffrance qui est un des résultats du péché, nous pouvons être rassurés dans nos souffrances et ne pas céder à l'inquiétude. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Jésus vient nous aider à persévérer dans la prière et à lutter en permanence contre l'inquiétude. Dans la souffrance, comme dans toutes les situations de notre vie terrestre, il nous faut nous accrocher à ces certitudes. Dieu est tout-puissant et juste. Il m'aime. La situation est provisoire et je garde les yeux fixés sur la vie éternelle. Jésus lui-même a pris ma souffrance sur lui et il est là pour me rassurer et me garder en paix sans céder à l'inquiétude. Pour en revenir à l'exaucement des prières, à la lumière de tout ce qui nous a été dit, c'est tout simple. Il suffit d'être plein d'amour, plein de foi, de savoir toujours pardonner, de tout faire à la gloire de Dieu, de ne pas oublier de faire notre demande et que celle-ci soit conforme à la volonté de Dieu. En nous souvenant en plus que Dieu regarde au cœur. Bref, pas de quoi en faire tout un plat. Alors je ne sais pas vous, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, chers frères et sœurs, mais il y a de quoi avoir le moral dans les chaussettes. Et c'était déjà vrai pour les disciples, même les disciples qui étaient à côté de Jésus en permanence avec lui. Lors de la guérison d'un enfant épileptique, qui nous est rapporté dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu nous rapporte que Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent de Jésus. Vous savez, j'imagine, ils étaient tous désemparés. Et ils lui demandèrent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. C'est toujours le doute, le manque de foi, qui est souligné en premier par Jésus. C'est encore vrai quand l'apôtre Pierre sort de la barque pour marcher sur l'eau en allant vers Jésus. Tant qu'il s'avance sans se poser de questions, le regard fixé sur Jésus, tout va bien. Dès qu'il prend conscience de la violence du vent et des vagues, le doute s'installe et Pierre s'enfonce dans l'eau. Jésus lui dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Alors, me direz-vous, arrivé à ce stade, et en nous souvenant que notre Seigneur Jésus, lui, était toujours exaucé parce qu'il était en symbiose parfaite avec le Père, forcément, nous trouvons notre foi bien petite, voire insignifiante. Mais c'est compté sans la volonté de notre Dieu, et ça a été rappelé encore tout à l'heure. Lui sait de quoi nous sommes faits, il nous aime, c'est lui qui nous fortifie. À lui, tout est possible. Tout ça a été rappelé tout à l'heure. Gloire à Dieu. De la même manière, Jésus nous a laissé cette parabole pour montrer que nous devons toujours prier sans nous décourager. Nous trouvons ce texte dans l'évangile de Luc. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Aujourd'hui, on dirait « Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les pieds, n'est-ce pas ?» Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le plus grand voyage commence par un pas, dit un proverbe chinois. Ça ne peut être que juste, n'est-ce pas? Le plus grand voyage commence par un pas. Pour notre foi, c'est la même chose. Il nous faut seulement faire le premier pas de foi et l'Esprit va nous conduire pour la suite. L'apôtre Pierre a fait le premier pas en sortant de la barque et il a marché sur l'eau. Les amis du paralytique ont fait la démarche de le passer par le toit et il a été guéri. Et il y a encore de multiples exemples dans la Bible. L'apôtre Jacques nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Et n'oublions pas, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'en Jésus-Christ, nous sommes justes, nous sommes faits justice de Dieu. Notre prière fervente a une grande efficacité. Alors certes, nous ne mesurons que très rarement l'efficacité de nos prières, en fait. Ceci pour éviter l'orgueil. Parfois, cependant, il nous est donné d'en voir les effets, immédiats dans certains cas, ou bien des années plus tard dans d'autres. Des dizaines de fois, nous avons pu mesurer, Anne-Marie et moi, la grâce du Seigneur et les filles qui étaient avec nous, la grâce du Seigneur en lui demandant une place pour garer notre voiture dans une rue bondée de Lyon. Et en ayant une immédiatement. Merci Seigneur. Une femme a prié durant 30 ans avant de voir son fils accepter le Seigneur dans sa vie. C'est un témoignage que j'avais reçu qui m'avait beaucoup touché, ça. Moi, je ne serais pas capable de prier pendant 30 ans pour mes enfants. Tout ce qui nous arrive de mauvais ou de bon sur cette terre, nous devrions le voir comme un exercice pour fortifier et rendre plus endurante notre foi. Comme premier pas pour notre foi, en toute chose faisons connaître à Dieu nos besoins par la prière avec des actions de grâce. Ne manquons pas d'adresser toutes nos demandes à notre Père céleste par l'intermédiaire du Seigneur Jésus, dans la confiance et dans la reconnaissance. Et en synthèse, je vous propose, l'exaucement des prières dépend de ma foi, exige que je pardonne ce que j'ai contre quelqu'un, a pour but avant tout de manifester la gloire de Dieu. L'exaucement des prières est aussi destiné à manifester l'amour du Père en nous, et il n'est possible que si ma demande est conforme à la volonté de Dieu. Je n'ai pas ce que je veux parce que je ne demande pas à Dieu. Ou bien je demande et je ne reçois rien parce que je demande mal. Je demande seulement pour satisfaire mes désirs mauvais. Et si je suis dans la souffrance, je reste convaincu que Dieu est tout-puissant et juste, il m'aime. Ma souffrance est provisoire devant l'éternité. Je m'efforce de regarder à l'invisible. Je m'appuie sur Jésus qui a pris ma souffrance. Il la porte avec moi pour que je ne cède pas à l'inquiétude. Tout ce qui nous arrive de mauvais ou de bon sur cette terre, nous devrions le voir comme un exercice pour fortifier et rendre plus endurante notre foi. Alors ne manquons pas d'adresser toutes nos demandes à notre Père Céleste par l'intermédiaire du Seigneur Jésus, dans la confiance et dans la reconnaissance. Et restons conscients que notre Père, dans sa sagesse, reste souverain et seul juge pour exaucer nos prières ou non. Merci Seigneur, en toutes choses. Amen.